Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, habiter, occuper un lieu, un territoire, le faire sien en le marquant, en le polluant, le partager en cohabitant, s'étendre et voir ses villes grignoter peu à peu la campagne. Habiter, voilà le thème du livre de Michel Serre, publié aux éditions du Pommier en novembre 2011, illustré par de nombreuses photos aussi variées que peut revêtir la notion même d'habitat. Michel Serre qui, de ci, de là, se confie sur ses souvenirs d'enfance qui l'habitent, la Garonne, les terres cultivées alentour, la grand-mère qui tricote en regardant son petit-fils par-dessus ses lunettes, ou encore les souvenirs peut-être moins joyeux de l'internat. Michel Serre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie française, philosophe des sciences, historien. L'histoire de cette aventure sur l'habitat a débuté par un constat de votre part. Pour vous, l'homme est en quelque sorte un arbre comme les autres. Alors pourriez-vous nous en dire plus ?
J'ai lu avec passion des livres sur les plantes. Parce qu'on peut être un zoologue moyen, mais un botaniste médiocre. Et comme c'était le cas, je me suis renseigné sur les plantes, sur leur manière de vivre, etc. Et la différence qu'il y a entre l'animal et la plante est tout simple. C'est que l'animal se déplace. Il se déplace pour acquérir de l'énergie, c'est-à-dire conquérir de la nourriture, attraper la proie. Et puis aussi pour ne pas être mangé. Il court pour manger, être mangé, c'est-à-dire ne pas être mangé. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la plante est immobile. Alors comment se fait-elle pour se défendre des prédateurs ? Parce qu'elle en a, évidemment, ou des parasites. Eh bien, c'est une extraordinaire usine. Et c'est une usine de double manière. Elle va chercher de la lumière, donc elle monte, n'est-ce pas ? Et puis elle s'étend horizontalement, selon les branches. Et puis c'est surtout une extraordinaire usine chimique qui produit des parfums, des poisons, etc. pour attirer ce qu'elle veut et repousser ce qu'elle redoute. Mais dans le fait qu'elle est immobile 1, verticale 2 et horizontale 3, elle a déjà les dimensions, les coordonnées de l'architecture. Parce que l'homme est un animal donc il se déplace, mais il a certainement besoin d'être immobile, c'est-à-dire d'avoir une niche où il dort, où il copule, où il élève ses enfants, etc. comme un animal. Et donc, à un certain moment, il faut qu'il trouve un arbre. À un certain moment, il est un arbre. Et d'une certaine manière, l'architecture est plutôt végétale qu'animale. Voilà.
Alors, vous écrivez justement, voici des millions d'années, nous habitâmes troncs et branches, nous en descendîmes, dit-on, en y laissant gambader nos cousins, les chimpanzés. Mais aujourd'hui, nous bâtissons selon le format des arbres.
Exact.
Nous dessinons nos maisons selon la station debout.
Exactement. C'est-à-dire, j'avais observé dans certains livres de zoologie que lorsqu'un animal se déplace, cher ami, il a, d'une certaine manière, le bec, la gueule, le museau en avant. Eh bien, le point extrême, la proue extrême, le point de cette avancée, c'est le lieu exact où le spermatozoïde touche l'ovule. Donc, il est déterminé à l'avance. Et puis, il a toujours le cul en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il veut laisser derrière lui tous ses excréments. Tandis que la plante, elle, quand elle ne bouge pas, elle accumule ses excréments et ça fait de troncs, des branches, c'est-à-dire tout ce qui est dur dans l'armature de l'arbre. Et d'une certaine manière, il y a un rapport profond que j'ai découvert à l'occasion de ce livre entre la vie végétative des plantes et l'architecture en tant qu'art humain ou technique humaine.
Ce livre, comme je le disais, est ponctué de nombreuses photos.
Oui.
Et la première, la couverture, est un coquillage coupé. Donc voit la structure du coquillage.
Section.
Pourquoi avoir sélectionné cette photo ?
Voilà, c'est très simple. Je ne l'explique pas dans le livre et je vous suis reconnaissant de poser la question. Vous connaissez l'histoire de l'univers. Ça commence par le Big Bang. Et puis il y a le refroidissement des étoiles, etc., des galaxies. Et puis les planètes arrivent. Et la planète sur laquelle il peut y avoir la vie est lié à ce qu'on appelle des conditions d'habitabilité. C'est-à-dire, je crois que dans le système solaire, il n'y a que deux planètes qui répondent à des conditions d'habitabilité, c'est Mars et la Terre. Il faut être pas trop loin du Soleil pour ne pas être grillé, pas trop éloigné pour être glacé, et ainsi de suite, avec des conditions de rotation. On appelle ça des conditions d'habitabilité. Bon, premièrement. Deuxièmement, il y a 3,8 milliards d'années, la vie apparaît. Alors la vie apparaît, très bien, mais elle est toujours monocellulaire. Et il y a des flaques partout de bactéries, c'est la vie bactérielle, si vous voulez. Mais tout d'un coup, et c'est là qu'arrive l'événement majeur de mon livre, c'est ce qu'on appelle l'explosion du Cambrien, il y a 600 à 800 millions d'années, où tout d'un coup, ces monocellulaires se mettent ensemble et font des métazoaires, c'est-à-dire des organismes à plusieurs cellules. Et tout d'un coup, comme elles sont à plusieurs cellules, elles ont besoin de quelque chose de nouveau, cher ami. Et vous savez ce que c'est ? Eh bien, une maison. C'est-à-dire, à l'explosion du Cambrien, ces métazoaires-là, ces pluricellulaires, commencent à construire une coquille calcaire autour d'eux. Et cette coquille calcaire autour d'eux, c'est à mon avis la première maison. Et nous pouvons le voir sur les mollusques, sur les coquillages, sur les huîtres, etc. Ces merveilleuses architectures chantournées. Vous avez vu souvent des planches de mollusques qui sont extraordinaires. Eh bien voilà, dans la vie, c'est les premières maisons. Et par conséquent, le coquillage est la couverture de mon livre, parce que c'est la première maison connue sur la Terre.
Et la boucle est bouclée, puisqu'on vient de parler à l'instant justement de ces maisons, de ces habitations, où les pièces sont des cellules.
Sont des cellules. Alors la cellule, justement, alors nous revenons à l'arbre à ce point de vue. La cellule d'un corps animal comme la vôtre ou la mienne, c'est des cellules molles qui permettent la souplesse et le déplacement. Tandis qu'au contraire, la cellule d'un arbre ou d'une plante est entourée de choses très dures pour la tenir, pour que ce soit architecturé, si vous voyez. Donc c'est des cellules solides. Et ça ressemble à la pièce dans laquelle nous sommes, la pièce dans laquelle nos auditeurs nous écoutent.
La première habitation, celle que nous avons tous connue, oui. C'est la matrice.
Beaucoup de gens disent « je suis locataire ». Et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça vient du latin « locus », qui veut dire « le lieu ». Et « locus », le lieu en latin, ne veut pas dire autre chose que l'appareil sexuel et génital de la femme. C'est-à-dire, très exactement, la vulve, le vagin, l'utérus. Et pourquoi ? Parce que, en effet, le premier lieu que nous avons habité, vous comme moi et tout le monde, c'est l'utérus de la maman, n'est-ce pas ? Où nous étions pendant 9 mois, assurés d'avoir le logement, la nourriture, le chauffage, etc. Et puis ensuite, le canal vaginal par lequel nous sortons et que nous réveillons à la vie. Et par conséquent, mon chapitre où je fais voir que la première habitat, c'est celui-là, se termine par une sorte de supplique ou de lettre aux architectes. Et je dis aux architectes, écoutez, amis architectes, lorsque vous faites un plan, vous êtes toujours attaché à ce qui est de plus beau, à ce qui est de plus solide. Vous êtes un ingénieur, vous êtes un artiste, etc. D'accord. Tout ça m'intéresse beaucoup. Mais quand même, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment confortable chez moi. Faites-moi un utérus. Faites-moi une maman, voyez. C'est-à-dire, ce qui est important pour habiter, c'est avoir des conditions d'habitat ou d'habitabilité presque analogue ou semblable à celle que nous connûmes autrefois lorsque nous étions en embryon, c'est-à-dire avant de naître. Vous voyez. Et au fond, lorsque le soir on se pelotonne dans son lit entre les draps, qu'est-ce qu'on fait sinon revenir justement dans l'utérus primitif ?
Ces architectes que vous interpellez d'ailleurs plusieurs fois,
plusieurs fois. À
un moment donné, vous leur dites, en tout cas vous leur exprimez votre souhait, de ne pas penser, puisque maintenant l'habitat urbain prend de plus en plus de place, grignote sur l'espace rural, de ne pas penser ces jardins à la verticale, mais vraiment d'essayer d'intégrer, oui. Donc on y revient, le végétal.
Ah oui, alors là c'est toujours l'équilibre urbain. Ou l'opposition entre le nôtre et mansard, entre l'architecte et le paysagiste ou le jardinier, je ne sais pas comment dire. Et cet équilibre-là, je le généralise beaucoup dans mon livre en parlant de quelque chose que j'appelle la guerre rurbaine, c'est-à-dire la guerre entre le paysage rural et le paysage urbain. Et là, il faut rappeler des chiffres très importants, c'est que jusqu'en 1850, nous étions 8% d'humains habitant les villes et 92% habitant les campagnes. Or, la politique ou la citoyenneté, telle qu'on la définit dans les sciences politiques, c'est quand même la définition d'un habitat urbain. C'est-à-dire, police, c'est la ville, citoyen, cité, c'est la ville. Et d'une certaine manière, cet espace rural était dédaigné, méprisé, etc. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que sans cet espace rural, parce que la ville a gagné, je dis à un certain moment, je crois dans le livre, que la France est devenue une ville dont le TGV et le métro et les autoroutes, les rues, ce qui est vrai d'une certaine manière. Mais oui, mais si la ville a gagné, elle a gagné vraiment, et nous ne sommes plus qu'1% de paysans. Oui, mais comment manger, comment se déplacer, comment avoir un environnement, etc. Tous les problèmes de l'écologie viennent de là, viennent, d'après mon livre, de cette guerre urbaine, qui a été gagnée par les cités et perdue par les paysans.
Et quelque chose justement que vous semblez regretter en tout cas dans votre ouvrage, vous regrettez ces paysages ruraux qui petit à petit sont grignotés par...
C'est-à-dire que l'événement le plus important du XXe siècle que nous venons de quitter... C'est ce passage-là, c'est-à-dire en 1900, nous étions dans les pays analogues aux nôtres, nous étions à peu près 70 à 75% de paysans, et en 2012, nous sommes plus qu'un peu moins d'1% de paysans, vous voyez. Et là, alors, la guerre, c'est une éradication complète de la culture rurale, du langage rural. Écoutez, je vous raconte une histoire, l'Académie française, puisque nous y sommes, fait un dictionnaire, comme vous le savez. Et ce dictionnaire est publié tous les 20 ans, le temps de stabiliser la langue, d'avoir une photographie à peu près stable de la langue. Et le rythme de 20 ans est observé depuis Richelieu à peu près. Eh bien, il y a un chiffre qui vient de tomber, qui est très intéressant, c'est que à chaque publication du dictionnaire, le gradient de différence de langue est de 3 à 4 000 mots. Et aujourd'hui, entre l'avant-dernière édition du dictionnaire et la prochaine, le gradient de différence, cher ami, est de 37 000 mots. 37 000 mots. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le petit enfant qui va naître de vous aura peut-être un enfant qui parlera une langue qui sera différente de la vôtre, comme la vôtre de Villon, de l'ancien français. Et ça, c'est quand même très important. Et on voit très bien que le changement d'habitat, le changement des mœurs, etc., que le XXe siècle a connu, a fait changer tellement les métiers, les occupations, etc., que le vocabulaire même a complètement transformé. Et cet état de choses du dictionnaire est une bonne photographie des transformations que nous avons connues.
Et vous pensez que c'est une évolution qui nous échappe ou qui est nécessaire ?
Comment c'est ainsi, ça s'est passé ainsi, et je n'en suis pas l'auteur, vous non plus, et personne n'en était l'auteur, et ça s'est passé comme ça. C'est ce qu'on appelle l'histoire, je crois, mais je suis très peu historien, mais je crois que c'est ce qu'on appelle l'histoire.
Vous avez parlé des locataires, propriétaires, s'approprier un espace, est-ce l'habiter ?
Alors, la question d'habiter est très intéressante parce que le champ sémantique du mot est passionnant. Vos habits et nos habits que nous portons sur nous, c'est encore ce même mot. Mais le mot fondamental d'habiter, c'est un fréquentatif, un supin, n'est-ce pas, habitus, et c'est avoir. Avoir, donc être propriétaire. Donc habiter, d'une certaine manière, ça se réfère à ce que vous appelez le droit de propriété. Alors j'ai longtemps réfléchi sur ce droit de propriété qui a fait couler tant d'encre. Et dans un livre récent que j'appelle « Le mal propre », je dis que les animaux, pour s'approprier un espace, mettent dessus des déjections. Marquent leur territoire par leur déjection corporelle, etc. Et je me suis demandé si nous faisions de même. Et je crois bien que oui. C'est-à-dire que si vous m'invitez à dîner et que vous me passiez le plat de salade et que je crache dans la salade, vous n'allez pas la manger. Donc, pourquoi ? Parce que je l'ai salie. Je l'ai sali, du coup, je me la suis appropriée, voyez. Et donc, je finis mon livre qui s'appelle « Le mal propre » par ce théorème fondamental, le propre, c'est le sale. Voyez, c'est-à-dire, c'est en salissant les choses qu'on se les approprie. Et j'ai généralisé cette idée-là à la pollution. C'est-à-dire, la plupart du temps, lorsqu'on parle de pollution de l'environnement, on explique comment on pollue avec du CO2, avec tout ce que vous voudrez. Mais moi, je me pose la question philosophique, alors, pourquoi on pollue ? Et la réponse est pour s'approprier. Il n'y a pas de doute que celui qui pollue le plus, c'est celui qui est propriétaire du lieu qui pollue. Vous voyez ? Alors là, il y a sur l'appropriation quelque chose de naturel, puisque ça vient des animaux, ça vient de notre lignée ou de notre évolution animale, mais aussi quelque chose comme un abus qui aujourd'hui peut nous mettre en danger, puisque la pollution de l'environnement est aujourd'hui un problème majeur.
Ou s'approprier un territoire qui est déjà occupé
et
par
qui est déjà
quelqu'un.
Occupé, bien sûr. D'où les guerres, etc. Allez.
Alors, un contre-exemple, c'est le traité de l'Antarctique, qui est régulièrement, d'ailleurs, fragilisé.
Oui, précisément, il est fragilisé.
Puisque là, pour le coup, il n'appartient justement, c'est un territoire qui n'appartient à personne, mais qui est largement convoité pour
alors,
différentes raisons.
Alors, du coup, vous voyez, le mot appartenir est intéressant là, parce qu'au moment où il n'appartient à personne, d'une certaine manière, il appartient à l'humanité. Et du coup, en face du malpropre, il y a un autre concept beaucoup plus important, qui est symétrique, c'est le bien commun. Voilà. Et l'Antarctique serait, par exemple, le bien commun.
Alors, je le disais en préambule de cette émission, que vous y mettez beaucoup d'expériences personnelles. Vous parlez au début de votre ouvrage d'un déracinement vous concernant.
Oui, c'est-à-dire que, pour prendre les choses en général, vous savez qu'aujourd'hui, l'humanité se déplace beaucoup plus. Je crois qu'en 1906, les compagnies aériennes ont fait voyager le tiers de l'humanité. Nous devons en être à la moitié. Alors, évidemment, c'est souvent les mêmes, mais enfin, ça donne quand même un bon chiffre. Et ce n'est pas impudique que de dire que j'ai beaucoup, hélas, voyagé dans ma vie et que, par conséquent, j'ai roulé ma bosse à peu près dans le monde entier pour des raisons professionnelles et puis passionnelles aussi parce que ça m'intéressait. Mais il y a une sorte d'habitat qu'on porte toujours avec soi, comme si on avait sous ses semelles la terre d'origine, vous voyez. Et bon, mais il se trouve que moi, vous l'avez dit, mon origine, c'est, elle est plutôt aquatique, c'est plutôt le... Je suis le dernier survivant de la dernière famille, des derniers mariniers de la moyenne Garonne, vous voyez, comme on dit, le dernier des Mohicans. Et par conséquent, voilà, tous les fleuves, quand je regarde la Seine, comme on peut la voir par la fenêtre ici, là, dans votre bureau, ben, j'ai toujours l'impression que c'est la Garonne. Alors, il y a une sorte de stabilité des conditions originelles, de l'habitat originel.
De conserver ses souvenirs en mémoire, de ne pas forcément retourner sur le terrain de son enfance pour ne pas être déçu, amer.
De toute façon, si vous revenez, le lieu de votre enfance a autant évolué que vous, forcément. Ce ne sont plus les mêmes gens, ce ne sont plus les mêmes conditions, ce ne sont plus les mêmes horizons, c'est plus tout à fait le même lieu. Et par conséquent, ce lieu-là, il est dans votre souvenir, voilà. Et du coup, il y a deux habitats, vous voyez. Il y a l'habitat physique, que j'appelle dur, et puis l'habitat moral, spirituel, intellectuel, etc. Et je dois dire qu'en tant qu'écrivain, eh bien, écoutez, mon habitat, c'est la langue française. D'une certaine manière, j'habite la langue. Voilà. C'est mon habitat, c'est ma maison.
Dans votre ouvrage Habité, il y a une certaine résonance avec l'actualité du moment. Il y a un terme que vous utilisez, celui d'épistémologue, donc, qui consiste à faire de la philosophie des sciences et d'histoire des techniques. Aujourd'hui, vous expliquez que tout le monde est épistémologue, c'est-à-dire que tout le monde est invité à donner son avis.
C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, mais c'était le néolithique tardif, il y a très longtemps, lorsque j'étais jeune, j'étais épistémologue. Pourquoi ? Parce que j'avais une double formation littéraire et scientifique. Bon. Et vous savez, on était rares sur la planète, on se téléphonait, il y en avait un à Pittsburgh, il y en avait un autre à Cambridge, il y en avait un autre, vous voyez, à Rome. Et on était combien sur la planète? On était moins de 10, ça c'est sûr, qui avions, si vous voulez, une idée de ce qu'était la science contemporaine et comment elle évoluait. Est-ce qu'il y avait des moments où il fallait juger des performances techniques, etc., et aussi des applications industrielles, etc., vous voyez, bon. Et puis maintenant, allons brutalement à aujourd'hui et prenons le micro avec vous, descendons sur le quai de la Seine et interrogeons n'importe qui, et n'importe qui a des idées sur le nucléaire, sur les mers porteuses, sur la biomédecine, sur les gènes, sur les OGM, etc. Et du coup, mais ce monsieur que vous allez interroger, mais c'est un épistémologue, vous voyez, et tout le monde est épistémologue. Et ça, c'est intéressant de voir comment il y a un retournement complet de la compétence, vous voyez. C'est-à-dire, autrefois, le savoir était réservé dans un très petit nombre de personnes, tandis qu'aujourd'hui, il est devenu extrêmement... C'est-à-dire, l'habitat du savoir est aujourd'hui, au fond, la commune maison. C'est à cause d'Internet, il n'y a pas de doute là-dessus.
Et vous pensez, pareil, que c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens ?
Je me refuse souvent de poser la question « c'est bien, c'est mal », parce que qui je suis pour dire « c'est bien, c'est mal ». D'abord, un, c'est ainsi, et deux, la distribution universelle du savoir est, à mon avis, toujours un bien, d'une certaine manière, vous voyez. Plus les gens sont au courant, plus ils résistent au spectacle ou aux mensonges qu'on leur distribue.
Un autre point en lien avec l'actualité, vous posez la question, nos villes s'organiseront-elles à terme suivant les nécessités de nourriture et de chauffage? Cela voilà, en rapport avec les questions d'énergie.
Et puis en rapport avec l'arbre dont nous avons parlé en commençant. Parce que l'arbre, précisément, résout cette question. Il résout la question de la chaleur, il résout la question de la lumière, de la nuit et des prédateurs en étant immobiles. Alors la question qui se pose aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai commencé en disant que l'habitat avait quelque chose à voir avec l'arbre, c'est que tout l'espace habitable est lié aux conditions de transport, c'est-à-dire à l'énergie, c'est-à-dire au pétrole, c'est-à-dire à l'électricité, etc. C'est-à-dire qu'arrivera-t-il lorsque le prix du pétrole montera verticalement, lorsque l'énergie sera si chère, par exemple un grand magasin américain, la moyenne de distance des produits qu'il vend est de 10 000 km. C'est gigantesque, vous voyez. Qu'arrivera-t-il à ce grand magasin lorsque les 10 000 km seront tellement hors de prix qu'on ne pourra plus le mettre en vente? Alors à ce moment-là, on aura une transformation complète de l'habitat humain. Et c'est probablement à ça qu'il faut se préparer. C'est-à-dire à un transport difficile et à une captation de l'énergie sur place sans trop la transporter. Alors du coup, l'utopie, et je suis très utopiste sur ce point, veut dire comment transformer le lieu. Et comment on peut imaginer que le lieu se transformera lorsque les conditions énergétiques du transport, etc., seront complètement transformées? Et cela peut se passer dans les 50 prochaines années.
Vous pensez qu'à terme, on pourrait avoir, au-dessus de nos immeubles, au lieu d'avoir des terrasses, d'avoir des jardins, par exemple?
Oui, des jardins, d'une part, des panneaux solaires, certainement, pour capter de l'énergie, etc. Être un peu plus indépendant énergétiquement, un peu plus indépendant du point de vue du chauffage, etc. Et il y a des villes qui commencent à travailler là-dessus. Il y a même certains quartiers de Berlin ou de Francfort qui sont très en avance là-dessus. Et on voit d'ailleurs à Paris, maintenant, si vous montez sur la rue de Triomphe, vous verrez qu'il y a beaucoup d'immeubles verts déjà qui sont devenus un peu écolos sur les bords.
Un autre point, toujours en lien avec, on va dire, l'actualité du moment, porte sur le climat. Alors vous écrivez « Le climat, la terre, l'air, la température ne dépendent pas de nous, mais cependant dépendent de nous. Pitié, oui. Experts, ne vous battez pas, les deux options restent vraies ensemble. »
C'est-à-dire que c'est une idée philosophique qui est la mienne depuis très longtemps. Je vais la rendre claire. Dans l'Antiquité, les philosophes, quels qu'ils soient, quelles que soient les écoles, avait une distinction très tranchée entre ceux qui dépendaient de nous et ceux qui ne dépendaient pas de nous. C'est-à-dire, ceux qui dépendaient de nous, c'était évidemment le travail, l'activité, etc. Ceux qui ne dépendaient pas de nous, c'était la maladie, la mort, la naissance, etc. Vous voyez ? Et puis est arrivée une seconde vague de philosophes, à partir, disons, de Descartes, lorsqu'il a dit qu'il faut être maître et possesseur de la nature, où les choses qui ne dépendaient pas de nous ont été plus ou moins conquises. Si j'avais même dit à mon grand-père que la naissance pouvait être programmée, il aurait ri. Pour lui, il faisait des enfants comme moi à l'aveuglette. Bon, si on lui avait dit que telle et telle maladie était curable, il ne l'aurait pas cru. Peu à peu, la révolution médicale, puis la douleur, surtout les antalgiques, les anesthésiques, etc. Et puis, regardez par exemple, depuis l'aurore des temps, on a dit « tu accoucheras dans la douleur ». Tu te rappelles, c'est quand même la Bible. Ben depuis la généralisation de la péridurale, il y a un changement complet sur cette question. Vous voyez ? Donc si on avait dit à nos grands-mères « tu n'accoucheras plus jamais dans la douleur », elle aurait été... Et donc, une des choses qui ne dépendait pas de nous, c'était le climat. Nous y sommes. Si j'avais dit à mon grand-père « le climat va dépendre de nous », il aurait également ri. Alors, voilà, premier acte, séparation entre ces deux classes. Deuxième acte, « ah non, dit Descartes, on va faire que les choses dépendent de plus en plus de nous ». Et actuellement, en effet, les choses dépendent de plus en plus de nous, jusqu'à rendre même quasi nul l'ensemble des choses qui ne dépendaient pas de nous. Mais il arrive, cher ami, une nouvelle état. Et le nouvel état est un peu difficile à expliquer, c'est nous dépendons de plus en plus des choses qui dépendent de nous. C'est ça que je dis.
C'est l'anthropocène.
C'est ça, c'est-à-dire que les choses qui dépendent de nous, nous intervenons dessus, mais elles sont tellement transformées que tout d'un coup, nous allons dépendre de ceux qui dépendent de nous. Vous voyez, une sorte de causalité cyclique, si vous voulez, un feedback, une boucle, et qui est tout à fait nouvelle par rapport aux deux états que je viens de donner, l'état, disons, antique et l'état cartésien. Et aujourd'hui, c'est un nouvel état qui est probablement la définition même de l'âge contemporain.
Une sorte d'albédo, en quelque sorte, c'est... où le mécanisme se renvoie.
Le mécanisme se renvoie sans arrêt, mais il n'y a pas seulement l'albédo. À peu près tous les mécanismes sont en feedback. Même, par exemple, la chaîne alimentaire des animaux. C'est-à-dire, plus le prédateur mange de proie, plus il se met en danger, il va mourir. Et par conséquent, à ce moment-là, s'il meurt, la proie va au contraire croître, et voilà, et ainsi de suite. Donc, les causalités réciproques sont connues dans la nature, et c'en est une. C'est la plus générale.
Et cela, j'imagine, renvoie à la notion de responsabilité de notre habitat, à savoir la Terre.
Exactement. Alors du coup, mon livre qui est parti, si vous voulez, des conditions d'habitabilité générale, finit par ces conditions-là, c'est-à-dire l'habitat d'aujourd'hui, c'est évidemment votre appartement, bien entendu, votre hôpital où vous accoucherez, l'académie où vous travaillez, etc. Mais c'est surtout maintenant, désormais, la maison à laquelle il faut faire le plus attention, c'est la planète.
Dernière question, Michel Serres. Votre ouvrage, donc, Habiter, porte justement sur, notamment, la planète Terre. Oui. Et au-delà de la Terre, c'est un point que vous n'avez pas abordé ou en filigrane?
J'aurais pu l'aborder, mais c'était un peu à l'extérieur, si vous voulez. C'est-à-dire, combien de planètes sont habitées? Alors, on revient au début, c'est-à-dire, quelles sont les conditions d'habitabilité? Alors, vous avez raison, dans le système solaire, on en a trouvé deux, etc., et puis, celles qui ressemblent le plus, en effet, à ces conditions d'habitabilité, on est arrivé à le trouver dans telle et telle constellation. Il y a une exoplanète, en effet, où on pourrait imaginer que les conditions d'habitabilité sont les mêmes. Mais là, ce pourquoi je ne l'ai pas dit, c'est que c'est un peu idéologique, c'est-à-dire ça prouve à quel point nous pensons qu'il ne peut y avoir de vie que celle que nous connaissons. Eh bien, est-ce que dans d'autres conditions, la vie n'a pas apparu de manière tout à fait différente de celles que nous sommes habitués à voir. Voilà, alors c'est pour ça que je n'ai pas étudié la question.
Merci Michel Serre, je rappelle le titre de votre ouvrage « Habiter », publié aux éditions du Pommier, paru en novembre 2011. Merci à vous d'être venu nous voir.
Merci.